depuis un an une femme qui s'appelle Manuela Gonzalez, surnommée la Veuve Noire, est emprisonnée suite à son passage devant le tribunal de Valence. Je me souviens, j'avais lu ce récit dans le Dauphiné libéré. Elle avait provoqué la mort par accident, par asphyxie, par incendie, par empoisonnement de 5 maris successifs. Après, bien sûr, leur avoir fait contracter à chacun une assurance vie généreuse en sa faveur. Une autre femme, Linda Taylor, détient le record absolu du nombre de divorces, 23. Et à 68 ans, elle a déclaré qu'elle cherchait un 24e mari. La femme samaritaine, dont le récit nous est fait dans l'évangile de Jean, n'aurait pas pu rivaliser avec ces deux personnes. Elle, à qui Jésus a déclaré une vérité bouleversante, fracassante, « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il y en avait 6 dans sa vie, elle n'en avait pas encore 23. J'ai déjà prêché sur ce récit de Jean chapitre 4 qui est d'une grande richesse en le voyant sous d'autres angles. D'abord, la façon dont Jésus dépasse les barrières pour s'adresser à cette femme, parler à une femme seule à seule en plein midi brûlant au bord d'un puits, c'était pas convenant pour l'époque. Parler en plus à une Samaritaine qui était une ethnie jugée un peu bâtarde par les Juifs, et en tout cas impure, se rendre tributaire même de cette Samaritaine en lui demandant de l'eau. Tout ce que touchait un Samaritain était impur pour les Juifs. Ce n'était pas convenable non plus. D'autres barrières encore, au-delà desquelles Jésus est passé, je ne reviendrai pas là-dessus, pour s'adresser à elle. Et vous vous souvenez probablement, pour vous tous qui êtes un peu familiers avec les évangiles, de ce discours de Jésus sur l'eau vive, sur cette symbolique, se présentant lui-même comme une source susceptible de délivrer une eau vive totalement satisfaisante pour sa soif, une eau vive éternelle, symbolique dont manifestement elle n'a pas compris grand-chose. En tout cas, elle n'a pas compris la portée spirituelle. Je ne reviendrai pas là-dessus non plus. Parce que dans ce long discours, c'est un des plus longs discours que Jésus ait eu lors de ces rencontres successives que les évangiles nous relatent, au cours de ce long discours, le point central, je crois, n'est pas véritablement celui-ci. Et je vais vous inviter à lire ce texte, en tout cas pour cette deuxième partie, parce que Jésus, ne sentant pas d'écho avec cette question de l'eau vive qu'il propose à cette femme, va l'aborder par un autre angle d'abord. Verset 16 du chapitre 4 de Jean. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison, tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari. » Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis. moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et je saute au verset 39 pour voir la réaction de ces Samaritains de la ville de Sichar. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restera là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Un bel épisode qui voit un certain nombre de ces Samaritains impurs venir à la foi, et cette femme en particulier venir à la foi. Et sur quelle base va-t-elle venir à la foi? Qu'est-ce qui va rester de cette discussion dans la tête de cette femme? Que va-t-elle rappeler? De quoi va-t-elle témoigner? Ce n'est pas la position théologique de Jésus sur la question du lieu où il faut ou il ne faut pas adorer, cette controverse qui était si habituelle à cette époque-là entre les religieux samaritains et les juifs. Ce n'est pas non plus le discours de l'eau vive, parce que ce n'est pas ça qui a conduit cette femme à venir à la foi, et encore moins les samaritains de la ville à venir à la foi, puisqu'ils ne l'ont pas entendu, ce discours sur l'eau vive. Mais c'est une chose, et une chose essentielle, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et c'est véritablement le centre de ce récit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Au verset 18, Jésus lui dit, « Tu as eu 5 maris, et ce que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. » Et c'est ça qui va être le point de basculement de cette discussion, et vers la foi en particulier. C'est ce dont elle va témoigner auprès des Samaritains de sa ville et qui va les conduire à aussi s'interroger sur Jésus et réaliser qu'il est véritablement le Christ. Jésus interroge notre comportement moral. Il y a régulièrement un volet éthique dans les discussions que Jésus a eues avec diverses personnes au fil des évangiles. L'adultère, à propos de cette femme qu'on lui amenait pour être lapidée, que les pharisiens lui amenaient pour être lapidé. La malhonnêteté dans sa rencontre avec Zachée, le collecteur d'impôts. Le matérialisme chez le jeune homme riche. Le sens des priorités dans sa rencontre avec Marthe et Marie. Et on peut multiplier comme ça les exemples. On accorde volontiers à Jésus-Christ et à notre Dieu des prérogatives dans le champ spirituel. D'ailleurs, on le voit de quelle façon la discussion va dériver à un moment donné avec cette femme sur des données d'ordre religieux, spirituel, etc. Mais quand Dieu vient nous parler de notre comportement moral, de nos choix de vie, de nos comportements éthiques les plus intimes, alors là, parfois, ça devient dérangeant et ça devient fracassant. Il nous oblige à des remises en question. Il nous oblige à des changements radicaux de vie, parfois. Nous avons chanté tout à l'heure « Sans ta lumière, où irions-nous, que ferions-nous » Et cette lumière de Christ, elle vient parfois être projetée sur le domaine éthique de nos vies, le domaine moral, de quelle façon nous nous comportons. Et une première question qui peut peut-être nous venir en voyant ce récit et comment Jésus aborde cette femme, c'est de dire, est-ce que nous sommes suffisamment à l'écoute, comme l'a été cette femme, de la voix du Seigneur, de cette lumière projetée sur nos vies, du Saint-Esprit qui nous interpelle à des moments donnés, de notre conscience qui nous interpelle également sur tel ou tel sujet. Dans les prières ce matin, il y a eu beaucoup de références au péché dont nous sommes conscients, beaucoup de références au pardon que le Seigneur accorde, à la restauration de vie qu'il veut nous accorder. Et nous avons raison de prier dans ce sens. Une des priorités de notre Seigneur, en nous donnant la vie éternelle, c'est de nous interpeller sur notre vie de maintenant, celle que nous vivons sur cette terre. Comment la vivons-nous ? La vivons-nous en conformité avec sa parole, en sainteté, ou la vivons-nous simplement en ayant la tête dans des données spirituelles qui dépassent la réalité de nos vies ? La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que Jésus interroge sur notre bonheur conjugal. Ce n'est pas une sphère privée dans laquelle il n'a rien à voir. Et il y a manifestement de la peine et de la souffrance dans cette affirmation de Jésus lorsqu'il lui dit « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il y a du dépit, il y a de la compassion. Parce que cette femme, manifestement, elle est en quête d'un homme pour en avoir abordé 5, avoir accepté de nouer une alliance avec 5 et d'être maintenant avec un 6e même. Et vraisemblablement, c'est une succession d'échecs. Je ne pense pas qu'elle soit de l'ordre de cette veuve, sinon le texte nous l'aurait dit, qui les a tous achevés, mais bien plutôt de l'autre ordre, de celle qui successivement place des espérances, chaque fois déçues, dans la confiance, dans la fidélité d'un homme, dans l'amour d'un homme, dans sa grâce, dans sa capacité d'être vrai, de se comporter comme Dieu veut qu'un homme se comporte. Et chez cette femme, c'est finalement le 7e homme qu'elle rencontre, Jésus. Et chez qui elle va voir ces qualités-là? Bien sûr, elle ne va pas nouer de relations, ne faisons pas des lucubrations de cet ordre-là, comme certains cinéastes ont voulu le faire à certains moments. Il n'y a pas de composante amoureuse, de composante sexuelle dans cette rencontre, absolument pas. Mais elle rencontre en Jésus celui qu'elle reconnaît immédiatement comme le vrai homme, celui qui est capable de lui dire la vérité, de la lui dire avec grâce, qui est capable de reconnaître ce qu'il y a de bon chez elle, qui est capable de dépasser les barrières sexuelles, les barrières de genre, les barrières raciales, les barrières religieuses, pour pouvoir l'aimer véritablement. Il y a chez Jésus ces qualités, Jésus l'homme avec un grand H par excellence, le Fils de l'homme, l'archétype vraiment de celui que Dieu aurait voulu voir en chacun de nous, en Adam d'abord et ensuite en chacun des hommes qui ont suivi par la suite. Cet homme, il va la conduire à la prise de conscience de son péché et qu'elle a besoin de pardon, qu'elle a besoin d'un renouvellement de son espérance parce que jusqu'à présent, ses espérances ont été déçues par tous ceux qu'elle a rencontrés jusqu'à présent. Pour nous tous qui sommes ici mariés, comment va la santé de notre couple ? Il y a quelques années, avec mon épouse, je crois qu'elle était là présente, j'ai assisté à un séminaire destiné aux médecins où nous étions interpellés par un psychiatre qui était d'origine juive et manifestement avait des racines qui étaient plongées dans l'Ancien Testament. Nous étions interpellés en conférence, nous étions plusieurs centaines, et cet homme nous disait « Messieurs, comment va votre couple ?» Et il disait que l'exercice, la qualité de notre exercice, de notre relation professionnelle, dépendait de la qualité de notre couple. À combien plus forte raison nous devrions, nous poser la question, qui appartenons au Seigneur, comment va notre couple à chacun ? L'espace conjugal n'est pas un domaine réservé où Dieu n'a pas à voir. Et il a à y voir sur la façon dont nous nous comportons particulièrement en tant qu'hommes. Nous nous étions posé cette question dans la réunion d'hommes que nous avions eue il y a quelque temps. La situation de cette femme, Jésus va la résumer en une phrase simplement. Tu as eu 5 maris. Je vous ai dit vraisemblablement pas une femme veuve à 5 fois, à 5 reprises. Il y aurait de quoi se poser des questions en ce qui la concerne. Mais vraisemblablement des divorces. Les Samaritains, donc cette espèce d'ethnie mi-juive, mi-pas juive, mi-païenne, avait un culte qui avait intégré à la fois les idoles païennes et ensuite, historiquement, il s'était à nouveau rapproché de Dieu. Il célébrait un culte sur le mont Garizim, donc il n'acceptait pas que Jérusalem soit le siège du culte. Et ils adoptaient comme livre inspiré, comme révélation de Dieu, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament essentiellement, ce que l'on appelle le Pentateuque, les livres que Moïse a écrits. Et ils étaient dans l'attente donc d'un Messie. Et dans ces cinq livres du Pentateuque est exprimée la loi que Dieu a dictée à Moïse. Et cette loi de Moïse autorisait d'une façon exceptionnelle le divorce. Et la tradition dit qu'on pouvait aller jusqu'à 3 divorces, mais au-delà, vraiment, c'était exagéré et tout à fait inconvenant. Le divorce, la plupart du temps, à l'initiative du mari. Et l'initiative du mari, c'est décrit dans un texte que je ne vais pas lire, dans Deutéronome au chapitre 24, sur la base d'une cause qui reste relativement mystérieuse, une cause d'impureté, quelque chose que le mari pouvait constater chez sa femme qui pouvait justifier ce divorce. Et les Juifs s'étaient peu à peu accoutumés à l'existence de cette clause et se disaient qu'on pouvait bien élargir peu à peu les raisons de divorce. Et donc, à un moment donné, Jésus étant face à des pharisiens, on est venu lui poser cette question dans Matthieu au chapitre 19. Ce récit nous est fait. Et Jésus va avoir à répondre sur cette question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? C'était ce qui était devenu la coutume, en tout cas dans une école théologique du judaïsme de l'époque. Il répondit, et c'est sa réponse qui est la plus intéressante, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Ils sont liés par une alliance qui a été tissée devant Dieu, l'alliance étant le degré le plus élevé de type de contrat que l'on puisse passer entre deux personnes. Et une alliance dont Dieu est témoin et dont les hommes et les femmes autour sont également témoins. Et Jésus termine en disant « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Voilà ce que Dieu veut de façon universelle. Que l'homme ne se permette pas de séparer ce que Dieu lui-même a joint. Cette alliance, c'est Dieu qui s'en fait le ciment, qui se porte garant. Et alors, là, la question, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Ça, c'était les modalités qui accompagnaient le divorce. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire par rapport à quelque chose qui était devenu une permission, un usage habituel. Jésus ramène au dessein initial de Dieu, qui est que le mariage soit indissoluble, que le mariage soit un engagement qui soit définitif, qui soit indissoluble, et que le mariage reste dans ce cadre de dignité, de l'alliance, dont Dieu est le garant et le témoin. Et le cœur de Dieu est en peine quand il y a divorce. Dans Malachie au chapitre 2, il le dit, « Je hais la répudiation. » Dieu ne supporte pas que cette alliance soit bafouée. Cette femme était donc dans cette situation. 5 maris. Le sixième avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, il y a une distinction très claire entre deux statuts, celui de célibataire ou celui de marié. Et il n'y a pas un statut intermédiaire. Seul le veuvage, et l'apôtre Paul va le rappeler dans Romains au chapitre 7, seul le veuvage brise ce lien d'alliance qui a été conclu entre deux personnes qui se sont séparés de leurs parents, qui se sont attachés l'une à l'autre et qui deviennent dorénavant une seule chair. Je ne fais que résumer la pensée universelle de Dieu. Jésus a évoqué, l'apôtre Paul également, des exceptions, quelques-unes, où le divorce paraîtrait justifié. Mais sans alliance instaurée par Dieu dès le commencement et respectée par un homme et une femme qui décident de vivre ensemble, il y a une situation qui, même si Jésus ne prononce pas le péché, mais la femme a très vite compris, qui correspond au péché. Et ce péché, il est nommé dans les épîtres sous le terme d'impudicité, d'impureté. La situation est claire. Et en une phrase, Jésus va révéler la chose. Et cette femme va très bien comprendre. Qu'en était-il de cette femme jusqu'à présent ? Manifestement, cette femme, donc, qui est membre de la communauté des Samaritains, manifestement, cette femme, je l'ai déjà dit, savait des choses sur Dieu. Elle savait même des choses pointilleuses. Le temple où il faut adorer ou ne pas adorer, qui était l'objet d'une controverse. Elle était très au courant de tout cela. Elle avait même des notions sur le judaïsme. Et cette femme, malgré tout ce qu'elle savait de Dieu, elle savait que le Messie était attendu également, malgré tout ce qu'elle savait de Dieu, vivait cette situation. Elle le vivait avec honte, avec gêne, peut-être, mais c'était la honte et la gêne que son voisinage faisait peser sur elle. Tout ce qu'elle savait avait peu de portée dans sa vie éthique, dans son comportement. Et il y a une espèce de fracture entre ce qu'elle croit, sa théologie, et ce qu'elle adopte comme comportement, son éthique. Alors que dans l'Écriture, nous voyons bien que notre théologie, la conception que nous avons de Dieu, et ce matin, Ricardo a conduit ce culte sur le champ de la sainteté, parce que nous avons un Dieu saint, Dieu veut que nous vivions dans la sainteté. Il n'y a pas de divorce entre notre théologie, si elle est saine, et notre éthique. Il ne peut pas y en avoir. Il y a une continuité entre ce que nous croyons, ce que nous savons, et ce que nous vivons. Nous pouvons savoir des choses sur Dieu et ne pas lui obéir. Et nous ne sommes pas dans le champ de la volonté de Dieu lorsque nous vivons de cette façon. À quel point est-ce que ma conception d'un Dieu saint influence ma vie, mes choix de vie, ma conscience que j'ai du péché et de la nécessaire restauration que je dois rechercher auprès de Dieu, et aussi la réparation, la remise en ordre de ma vie. Qu'en était-il de son entourage ? Dans son entourage, je ferai une distinction entre des chefs religieux. Il y avait parmi la communauté des Samaritains des chefs, des religieux, sacrificateurs, etc., qui avaient pour vocation fondamentale de rappeler la loi de Dieu, les exigences de Dieu au peuple samaritain. Et le fait que tout le monde, que ce soit elle ou que ce soit les Samaritains de Sichar, le fait qu'ils s'étonnent autant de l'annonce « Il m'a dit tout ce que j'ai fait » me laisse à penser que probablement jusqu'à présent, bien, personne ne le lui avait dit, tout ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire qu'elle était dans une communauté religieuse, assistée probablement même à des offices, elle savait très bien que le temple était sur le mont Garizim, là, juste là devant, et que c'est là-bas que ça se passait. Probablement, elle y allait. Personne ne lui avait rien dit. Les prophètes, dans le livre de Jérémie en particulier, ont condamné sévèrement à plusieurs reprises les bergers d'Israël qui ne se sont pas préoccupés de dire la vérité à son peuple. Ces bergers d'Israël qui pensaient à la légère la plaie de la fille de mon peuple. C'est dans Jérémie au chapitre 6. Des bergers qui pèsent le troupeau de Dieu avec négligence. Et il y a maints avertissements à ces prophètes. Et il y a, semble-t-il, ici, des responsables spirituels de cette communauté qui ont manqué à leur devoir. Vous êtes dans une église où les anciens ont pris à cœur depuis toujours, et les jeunes anciens également maintenant sont unanimes dans ce sens, pour avoir le courage de dire la vérité. Quand nous sommes face à des situations de péché, avec grâce et amour, de façon à amener à s'interroger sur son comportement devant le Seigneur et à accepter le pas d'être conduit au pardon de Dieu et à la restauration de nos vies. C'est une grâce. Parfois, c'est une blessure, mais c'est une grâce que d'être dans une communauté où le choix de la vérité est délibérément fait. Il y a trop de communautés où la notion, et je parle un peu en connaissance de cause, sur la base de nombreux témoignages malheureux, où la question éthique, et celle-ci en particulier, une situation de concubinage ouvert, avéré, ne sont pas traitées. On ne dit rien à ce sujet-là. Oh, il faut patienter, il faut user de grâce. Et les habitants de Sichar, cette communauté qui était une communauté très restreinte, j'ai appris en recherchant un peu qui étaient les Samaritains qu'il existe encore une communauté de quelques centaines de personnes en Israël, de Samaritains, qui exercent toujours le même culte, dans la même pérennité, la même tradition. Cette petite communauté qui était très restreinte des Samaritains, dans cette ville, ville du Moyen-Orient, tout se sait, tout se dit. Qu'avait-il dit, qu'avait-il fait vis-à-vis de cette femme ? Faire peser sur elle une honte qui poussait cette femme à aller à l'heure de midi, la plus inappropriée, au puits pour puiser de l'eau, peut-être. Mais la vérité, ce n'est pas ça, ce n'est pas faire peser une honte sur le pécheur. La vérité, c'est pouvoir l'aborder avec grâce et amour et pouvoir dire des choses à ce sujet et conduire à la repentance. N'avait-il pas osé ? N'avait-il pas le discernement ? Ou s'était-il tout simplement accoutumé à la situation ? Et là encore, c'est avec tristesse qu'on entend des chrétiens parfois s'exprimer de cette façon. « Oh, ils ne sont pas mariés, mais c'est tout comme. Mais ils vont régulariser. Il faut user de grâce. » Puis vous savez, c'est si courant maintenant. Ça correspond à notre culture, c'est le nouveau mode de vie. Tout le monde fait comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit l'apôtre Paul. Et nous sommes constamment, un peu comme, vous savez, dans le lit du torrent, ce caillou anguleux qui, à force que l'eau passe sur lui, va devenir finalement un galet lisse. Nous sommes parfois, par ce que nous entendons, ce que nous voyons régulièrement, ce que nous avons autour de nous de façon régulière, nous sommes peu à peu abrasés dans notre discernement, dans notre perspicacité de ce que Dieu veut et de ce que l'homme parfois fait. Et nous devenons d'une tolérance qui devient aux yeux de Dieu coupable. Que ce soit les religieux samaritains, que ce soit les gens de cette ville, tous étaient tellement étonnés que l'on ait dit à cette femme ce qu'elle avait fait. Ils en avaient peut-être jamais eu conscience, ou en tout cas dans le bon sens du terme. La discussion passe ensuite à une question de controverse spirituelle. Pendant longtemps, en lisant ce texte, et j'ai sûrement dû le dire dans des prédications sur ce sujet, cette femme bascule d'un coup sur la question de l'adoration ici ou là-bas. Et j'ai toujours vu là comme un prétexte pour échapper à la discussion qui s'engageait et qui devenait dérangeante. Je ne suis pas si sûr. Et je pense qu'il y a une réelle connexion dans l'abord de cette question de l'adoration après l'abord de cette question de sainteté dans la vie de cette femme, tout simplement. Je me dis, si elle avait voulu faire diversion, Jésus ne se serait pas laissé enfariner et continuer à aller dans le même sens en se disant « Ah, ben, elle a changé de sujet, allons-y, là, et puis laissons de côté l'autre, finalement, ne bougeons rien aux choses telles qu'elles sont, peut-être difficile de faire mieux. » Non, certainement pas. Je crois que cette femme, elle pose cette question parce que c'est à l'écoute de cette phrase de Jésus qu'elle a pris conscience de son péché. Et comme elle connaît la loi de Moïse, quand il y a péché, il doit y avoir quoi ? Sacrifice d'expiation. Et le sacrifice d'expiation, il faut bien l'offrir quelque part. Les Juifs l'offraient à Jérusalem. Et elle, dans sa tradition, elle l'offrait sur le mont Garizim. Alors elle ne sait plus où on en est, cette pauvre femme. Elle voit là un homme qui lui dit la vérité qu'elle n'a jamais entendue. Elle prend conscience de son péché et elle demande où est-ce qu'il faut que j'aille. Et c'est intéressant de voir que Jésus la conduit tout ailleurs que sur le chemin de Jérusalem. Il la conduit vers la notion d'adoration en esprit et en vérité. Et là encore, je me suis dit, voilà, Jésus change de sujet, il veut poser un enseignement sur l'adoration, il aborde l'adoration. Non, il est dans une discussion seul à seul avec cette femme. Il n'y a pas grand monde qui l'entend. Il y a peut-être un disciple qui est témoin, celui qui rapporte tout ça, ou Jésus l'a raconté après, je ne sais pas. Toujours est-il, il n'est pas dans un enseignement à vocation de devenir universel et public. Non, il parle à cette femme et il lui dit quoi ? Il lui dit que son adoration, c'est-à-dire la glorification de Dieu, passe d'abord par le fait que elle a dorénavant un père. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus introduit quelque chose de neuf pour cette femme. Le Pentateuque ne présente pas vraiment Dieu comme un père. Mais il lui dit, il y a maintenant un autre homme, encore un de ceux que tu n'as pas connus, Dieu, une figure d'homme, je veux dire, Dieu, qui te veut comme enfant. Et ce Père, tu as besoin de le glorifier, de lui faire honneur, tout simplement, en esprit, c'est-à-dire dans ta vie intime, dans le fond de tes désirs, de tes décisions, de tes intentions, tout cela qui dirige tes actes ensuite. Mais c'est au cœur vraiment de ton intimité, en esprit, que tu as besoin de faire honneur à ce Père. Le reste en découlera. Et deuxième chose, c'est en vérité. C'est-à-dire en acceptant que la lumière, nous l'avons chanté tout à l'heure, « Sans ta lumière, que ferions-nous ?» La lumière de Dieu soit jetée sur ta vie, sur ton intimité profonde, et que la vérité éclate. Tu es dans le péché. Il n'y a une vérité de Dieu qui est révélée dans sa parole, celle que tu détiens, même ne serait-ce que les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Il y a une vérité là. Et de considérer cette vérité, de la prendre en compte, de considérer qu'au fond de toi, il y a les racines du péché de tes actes, et de te réconcilier avec ce Père, de faire le choix d'une restauration. C'est là que commence l'adoration. Elle ne commence pas dans les sacrifices que vous offrez au temple. D'ailleurs, les prophètes l'avaient dit, David l'avait dit aussi. Que Dieu a à faire de tous ces sacrifices, ces holocaustes ? Ce qu'il veut, c'est une vie pure. C'est-à-dire que notre première adoration, c'est une éthique de vie vécue dans la vérité. Notre première façon d'adorer le Seigneur, c'est de l'adorer par des choix de vie qui l'honorent et qui le glorifient. Et voilà la connexion dans ce discours entre la révélation éthique sur sa vie, la révélation morale. Tu as cinq maris, celui avec lequel tu es n'est pas un mari. Tu vis dans le concubinage. Le concubinage n'est pas selon la volonté de Dieu. Et Jésus lui dit, voilà le chemin pour que par ta vie, en esprit et en vérité, tu puisses adorer véritablement ton Père qui est Dieu et qui te veut sainte. Que Dieu nous conduise à accorder à nos comportements de vie plus d'importance qu'à nos rituels religieux. Cette femme samaritaine, elle savait tout des rituels religieux, où adorer, l'attente d'un messie, etc. Elle savait tout de tout ça. À quoi ça lui servait ? Rien. C'était la rencontre de Jésus qui avait besoin d'éclairer son comportement et de révéler la vérité. Notre piété intime a bien plus d'importance que nos apparences. Lorsqu'elle déclare son statut, elle ne déclare pas qu'elle a eu cinq maris. Elle déclare, elle veut sauver les apparences. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle ne déclare pas non plus qu'elle vit en fait avec un homme qui n'est pas son mari. Mais Jésus, qui voit au fond des cœurs, comme il voit au fond des nôtres, sait où est la vérité en ce qui concerne cette femme. Que notre piété intime ait plus d'importance que nos apparences. Que dans ce champ conjugal comme dans les autres, nous ayons le souci de cette sainteté qui est notre première adoration. Et de venir dimanche après dimanche dans ce culte que nous célébrons, que Dieu nous demande, qu'il attend de nous, n'a pas de sens si dans notre vie de tous les jours, nous n'avons pas eu cette recherche de la sainteté, de la vérité, et accepter que la lumière des commandements et de la parole du Seigneur, de la personne de Jésus, accepter que cette lumière soit révélatrice de ce que nous sommes véritablement, des pécheurs qui ont besoin de la grâce de notre Seigneur, qui ont besoin de changements radicaux de vie. Voilà ce qui constitue notre première adoration essentielle. Examiner nos vies à sa lumière pour que nos vies le glorifient dans tous les champs. Jésus a abordé un champ particulier ici. Et ensuite, vous avez constaté que la discussion se généralise dans l'adoration en esprit et en vérité. Que le Seigneur puisse nous aider. Et j'aimerais que nous puissions terminer cette prédication de la parole par un chant que j'affiche ici, que le groupe de musique, dans lequel le groupe de musique va nous conduire. Nous resterons assis et que nous restions dans un esprit de recueillement. Nous chanterons deux fois. Que Dieu puisse nous parler par sa lumière, par sa vérité sur ce que nous sommes et ce dont nous avons le plus grand besoin pour être de vrais adorateurs, en esprit, en vérité et dans le concret de nos vies.